C'est un bonheur d'être avec vous.
Merci.
Je voudrais remettre ce que nous allons vivre au Saint-Curé. Je vois qu'il veille sur nous, là, il est là. Hein. Oui. Voilà. Alors, Saint-Curé d'Ars, toi qui es un adorateur assidu du Christ, apprends-nous à approcher avec foi et respect de l'Eucharistie, à goûter toute la présence silencieuse du Seigneur. Tu étais l'ami des pécheurs. Tu leur disais, vos fautes sont comme un grain de sable en comparaison de la grande montagne de la miséricorde de Dieu. Alors nous te le demandons, dénoue les liens de la peur qui nous retiennent, parfois, loin du pardon de Dieu. Et augmente en nous le vrai repentir de nos fautes. Découvre-nous le vrai visage du Père, ce Père qui attend inlassablement le retour du prodigue. Saint Curé d'Ars, tu as été le soutien des pauvres. Tu disais, mon secret est bien simple, c'est de tout donner, de ne rien garder. Alors, durant cette journée jubilaire, apprends-nous à partager avec ceux qui sont là, dans cette belle expérience, ce dimanche, ce jour. Rends-nous libres vis-à-vis de l'argent, de toutes les fausses richesses. Recentre-nous sur le Seigneur. Tu as été aussi un fils aimant de la Vierge Marie. Tu disais qu'elle était ta plus vieille affection. Apprends-nous à nous tourner vers elle avec la simplicité et la confiance de l'enfant. Curé d'Ars, tu es devenu le témoin exemplaire des curés de l'univers, alors que ta charité pastorale conduise tous les pasteurs. Tout à l'heure, nous aurons un évangile qui va nous rappeler l'importance des vocations. Rechercher la proximité avec tous, sans exception des personnes. Donne-leur l'amour de l'Église, l'élan apostolique, la solidité dans les épreuves. Inspire aux jeunes, et des jeunes nous rejoindront tout à l'heure à la messe. Inspire aux jeunes la grandeur du ministère sacerdotal, la joie de répondre à l'appel du bon berger. Oui, Saint Curé d'Ars, sois notre intercesseur aujourd'hui, et auprès de Dieu, obtiens-nous ce que nous te demandons. Toi, le pasteur humble et fidèle, infatigable, dans le service de Dieu et des hommes, et daigne bénir notre rencontre, notre entretien. Je voudrais dire des choses toutes simples, parce que Dieu est simple. Saint Vincent de Paul dit que Dieu est simple. C'est nous qui le compliquons. C'est Vincent de Paul qui dit ça. Alors, essayons d'être simples. Pas simpliste, mais simple. C'est la grâce d'Ars, je crois. La grâce d'Ars, c'est la simplicité sans jamais verser dans le simplisme. Je voudrais insister tout simplement ce matin dans ce temps jubilaire des consacrés, invités aux personnes seules, bien sûr, sans exclusive, ça va de soi. Ars est un lieu universel. Insister sur le fait que Ars est rencontre. Enfin, s'il fallait donner un titre à la petite causerie, là, c'est Ars et rencontre. Pour aller préparer hier intérieurement notre rencontre, je suis allé prier au monument de la rencontre. Ce beau monument de la rencontre qui est là à quelques centaines de mètres. Nous savons tout ce qu'il a incarné de symbolique pour inaugurer le ministère de Jean-Marie Vianney. Nous savons que l'humble enfant lui a montré la route pastorale. Et nous savons que Jean-Marie Vianney lui a promis, à lui et à tous ceux qui s'inscriraient dans son sillage, il lui a promis le chemin du ciel, de montrer le ciel, la route du ciel. Alors oui, Ars et rencontre. Le pape Benoît XVI dit que la foi est rencontre. C'est pour cela que nous sommes là, la foi est rencontre. Benoît XVI disait, la foi est rencontre, non pas avec des idées, Non pas avec des projets compliqués. La foi est rencontre avec quelqu'un. Rencontre avec quelqu'un. Je vous souhaite de rencontrer ce quelqu'un, d'être saisi par ce quelqu'un. La foi est rencontre avec quelqu'un. Et Benoît XVI ajoutait, ce quelqu'un, il veut nous transformer de l'intérieur. Nous transformer de l'intérieur. Et il ajoutait, il veut aussi nous révéler que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, ça c'est le projet du Christ. Nous rencontrer parce qu'il est quelqu'un, nous transformer de l'intérieur et nous révéler notre condition filiale, à quel point nous sommes aimés de Dieu, d'un Dieu Père. Et c'est parce que, comme le dit Benoît XVI, la foi est cette rencontre décisive, transformatrice. C'est pour cela que Ars est rencontre. Parce que le curé d'Ars a voué son existence à féconder cette rencontre, à servir cette rencontre dans le cœur des hommes. Quand on va au monument de la rencontre, on essaie d'imaginer le chemin de l'époque. Quelque part, il a encore des côtés semblables et évidemment déjà très différents. C'est semblable tout en étant très différent. Le monde a changé, sans toujours changer, car la nature humaine a des côtés qui demeurent, qui sont là, même qui, on dit parfois que l'histoire bégaye. Et en même temps, tant de choses sont transformées. Je pense par exemple à ce terrain de tennis là, qui est sur la route, qui incarne l'aujourd'hui, le 21e siècle. Et je me disais que notre rencontre, notre jubilé d'aujourd'hui, c'est à la fois de prier sur ce 21e siècle et en même temps de sans cesse aller nous abreuver au siècle, aux intuitions du Saint-Curé, pour entendre comment la rencontre peut venir briser toute solitude, donner à la solitude sa signification profonde, son apaisement, son éclairage. Journée des personnes seules, journée pour les personnes seules. Je bénis vraiment l'équipe du sanctuaire d'avoir pensé cette journée. Je bénis de l'avoir pensé parce que ma route me fait souvent entendre des gens, les croiser, les rencontrer, les accueillir, soit à la miséricorde, soit à l'écoute spirituelle. J'ai pas mal aussi de services de médiation à opérer. Et je constate la solitude des gens. Elle est criante aujourd'hui, la solitude. Elle est multiforme. J'aurai occasion tout à l'heure d'entrer dans les nuances de cette solitude. La solitude est grande aujourd'hui. Elle a des côtés, bien sûr, qui ne sont pas nouveaux. Mais elle en a quelques-uns aussi qui sont nouveaux. C'est étonnant, la solitude, à la fois elle vient des temps les plus ancestraux, mais en même temps elle a un côté, hélas, moderne, très critique aujourd'hui. Or, le Saint-Curé a offert son cœur à l'écoute de tant et tant de solitude. C'est pour cela que être dans un jubilé des personnes seules, c'est ouvrir un horizon, c'est laisser une lumière. Une lumière intérieure nous rejoindre. Vous êtes très différents dans ce groupe. Comme seront très différentes les personnes qui tout à l'heure viendront à l'Eucharistie ou nous croiseront sur le chemin de dévotion, c'est très important qu'on se respecte les uns les autres. Nous n'avons pas les mêmes histoires. Nous avons chacun, chacune, une histoire sacrée. Nous sommes une histoire sacrée. Parfois une sacrée histoire. Mais nous sommes respectables, chacun, chacune. Et comprenons que nous ne saisissions pas l'enjeu de solitude de la même façon. Comprenons que l'autre n'en soit pas là où j'en suis. Et apprenons aussi, durant cette journée, à entendre battre le cœur de Dieu au service de tous. Dieu vient rejoindre chacun de façon plus merveilleuse que nous ne pourrions nous rejoindre. Il nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Et comme il nous connaît bien mieux que nous-mêmes, il se met à l'unisson de chacune, chacun de vous dans ce que peut être l'expérience de sa solitude ou de sa non-solitude. Et donc, engageons-nous à être très respectueux les uns des autres. Parce que le Seigneur est en l'autre. Et parce que le chemin de l'autre est connu de Dieu. Pèlerin ici à Ars, nous entrons dans une fraternité. Elle est comme sacramentelle, parce que le Saint-Curé la désire. Et parce que lui, dans l'expérience même aussi de la solitude, Je reviendrai tout à l'heure sur sa façon de la vivre. Lui-même aussi a ouvert grand les bras de la miséricorde à tous. Alors voilà, j'insiste sur ce préalable-là. Ars et rencontres, et nos chemins viennent comme à l'unisson de la Sainte Eucharistie, dans quelques minutes, des autres actes de la journée, le repas fraternel, le chemin jubilaire, tout le programme, jusqu'à l'envoi. Nous serons envoyés tout à l'heure, envoyés sur des routes missionnaires, parce que le jubilé voulu par le pape François est jubilé d'espérance. Espérance. Et parce que le pape François, dans la bulle qui a ouvert le jubilé d'espérance, demande aux pèlerins d'espérance des signes d'espérance. Et donc tout à l'heure, je vous enverrai pour porter des signes tangibles de l'espérance. Et je vous souhaite de vous abreuver à l'espérance durant toute cette journée auprès du Saint-Curé. Oui, le Saint-Curé a montré le chemin du ciel. Il a servi, au bon sens du terme, d'indicateur de ce ciel. Élisabeth de la Trinité insiste pour que les prédicateurs, elle dit, soient des poteaux indicateurs. Élisabeth de la Trinité a cette expression. Elle dit, un prédicateur, c'est quelqu'un qui est comme un poteau indicateur qui montre. Il ne se prend pas pour le ciel lui-même, surtout pas, mais il montre le ciel. Eh bien, oui, le Saint-Curé d'Ars montre ce chemin du ciel. Cette transformation intérieure. Permettez que j'évoque un tout petit peu ce que je disais à l'instant sur cette diversité des solitudes. Ça va, on m'entend bien pour l'instant? Oui, tout va bien? N'hésitez pas à le dire hein, si on n'entend pas. Les solitudes. Oh, on ne va pas faire ici un cours de sociologie sur la solitude. On n'est pas venu ici à une session de sociologie, mais quand même. Il faut quand même prendre la mesure que les solitudes, elles sont diverses. Retenons quand même que ce n'est pas la même chose une solitude qui est choisie et une solitude qui est subie. Il faut mettre cette grande nuance là, il faut se comprendre là. Ce n'est pas la même chose une solitude dans l'urbanité des grandes villes, et j'en connais quelques-unes, où elle prend là sous le béton un certain profil, et la solitude rurale, qui a aussi sa souffrance, qui peut parfois être dans les crins de verdure, mais qui peut aussi être très forte. Je pense à certaines professions agricoles ou autres. Il y a des solitudes plurielles qui s'inscrivent dans le paysage. Il y a des solitudes qui peuvent être douloureuses, plus insupportables que d'autres. Et ça, nous devons absolument les accueillir, les apaiser, leur donner le plus de baume possible. Il y a des solitudes qui aujourd'hui sont créées par le continent numérique. Ce continent numérique qui crée des solitudes terribles et qui génère des addictions. J'ai depuis là tout un temps dû accompagner plusieurs fois des sépultures de très jeunes dont la solitude était devenue paroxystique. Ma tête brûle. Je pense à cette jeune adolescente. Ma tête est toute brûlante. Mais de quoi brûle sa tête? À cette jeune qui disait en même temps qu'elle aimait Jésus. Comment se fait-il qu'on soit si seul quand on a été malheureusement gagné par ce, submergé par ce continent qui crée de l'addiction, les addictions? Ah, ces solitudes-là, elles peuvent être terriblement fortes. Il y a les solitudes qui peuvent être vocationnelles. Celles-là aussi, nous avons à les comprendre, les accueillir, les soutenir, les cultiver, les porter dans la prière. Ne pas croire qu'elles sont acquises une fois pour toutes. Pas parce que ma vocation, par exemple, serait d'être ermite, que ce sera simple tous les matins. Dont André Louf, qui a d'abord été moine, puis ermite, témoignait du défi que c'était d'être moine au sein d'une communauté, ou que d'être ensuite ermite. C'est pas parce qu'on a perçu que c'est la vocation de Dieu, le désiré par Dieu, que ce sera simple tous les jours. Il faut les porter dans la prière. Il y a des solitudes qui se transforment en altruisme. Des solitudes qui deviennent comme fécondité d'un altruisme, d'un sens, un sens de l'autre, de la collectivité, de la communauté. C'est donc pas la même chose, une solitude qui malheureusement va risquer d'être repli sur soi. C'est pas la même chose qu'une solitude qui va donner un centuple, qui va décupler quelque chose, qui va décupler un rayonnement. C'est pas la même chose. Nous savons que Jésus aussi a connu la solitude, avec le besoin parfois de la rencontrer, de la vivre, parce que Jésus lui-même se retire si souvent. Les exégètes notent les lieux de prédilection, la mer, le bord de mer, la montagne, le désert, se retirer. Se retirer pour se refaire dans la prière, pour rencontrer le Père. Et il y a la solitude aussi qu'on peut imaginer, qu'on peut prier la solitude de Jésus à tant et tant de moments de son ministère. Ce serait passionnant de faire une étude là-dessus pour entendre Jésus lui-même dans... mesurer ce qu'il a pu ressentir ou éprouver à telle croisée de chemin. On peut entendre la présence aussi, toute la présence ultime dans la passion sur la croix. Les sept paroles, ces sept paroles qui sont prononcées par le Christ, qui viennent directement du lien de Jésus à son Père, de Jésus aux hommes. Les sept paroles de Jésus tandis qu'il connaît sa passion. Elles sont à la fois un lieu étonnant où on pourrait se dire Jésus va, il aurait toutes les bonnes raisons de se replier sur sa solitude. Il souffre, il va connaître l'injustice la plus ineffable, la plus inconcevable. Et pourtant, si vous contemplez toutes ces paroles, elles sont des paroles d'oblation, elles sont des paroles tourner vers son Père, tourner vers les hommes, tourner vers l'autre. Si vous aviez le temps d'aller méditer ces sept paroles, que ce soit envers le bon larron, envers Marie et Jean, envers son propre Père, ou pour dire que tout est accompli, ou pour dire j'ai soif, la remise de son esprit entre les mains du Père. Oui, nous avons en Jésus le soutien le plus essentiel, le plus divin, de ce que peut incarner la solitude, certitude que par Jésus, nous ne sommes jamais seuls. Nous ne serons jamais seuls. Lui-même, qui pouvait connaître les affres de cette solitude, il aurait pu même s'y abîmer de façon fatale, s'il n'avait été que dans son humanité, parce qu'il est relié à l'amour trinitaire, à l'amour de son Père, et parce qu'il est passionnément livré pour tous les hommes, Jésus, au moment même où la solitude est la plus forte, Jésus se livre, se donne. Et là, nous avons quelque chose sur cette solitude sacramentelle qu'a si souvent prié le Saint curé d'Ars dans les pages liturgiques. Je viens simplement d'en balayer quelques-unes parce que, bien sûr, on n'a pas le temps ici en quelques minutes, mais ça vaut vraiment le coup d'aller prier sur toutes les paroles du Christ, toutes les paroles du Christ, et qui viennent nous donner source là où ça pourrait être mortifère. Ça devient une dilatation. Le cœur du Seigneur se dilate. Là où ça pourrait être mortifère, ça devient une fécondité, une oblation. Si nous pouvions, grâce au Saint-Curé, découvrir un peu plus que en Jésus, en communion à Jésus, la solitude peut devenir autre. Le message d'Ars, c'est à la fois « reviens en toi-même, reviens à la profondeur de ton cœur ». Le curé d'Ars ne cesse de le dire « revenez en vous-même ». Et en même temps, le message d'Ars, c'est « tu ne seras jamais seul ». Tu ne seras jamais seul. Et le Saint-Curé en témoigne. Alors, sans être exhaustif, je me permets de souligner quelques traits de la personnalité du Saint Curé d'Ars comme venant nous aider dans la solitude, nous rejoindre dans cette solitude. Nous avons d'abord, chez lui, nous trouvons chez lui un cœur écoutant, le cœur écoutant. Et s'il comprend si bien les cœurs, c'est parce que lui-même est écoutant de Dieu. Le secret du curé d'Ars, c'est de tellement écouter Dieu que Dieu passant par lui, la grâce de la miséricorde vient comme rejoindre les cœurs des hommes. Le saint curé d'Ars a cette grâce profonde de donner qui il reçoit. Je dis souvent à mes confrères, comme je suis missionnaire de la miséricorde, j'insiste beaucoup auprès d'eux. Je leur dis, vous savez, vous ne serez jamais des bons confesseurs si vous n'allez pas à la confession vous-même. Saint François de Sales disait, quand il a écrit un petit mémorial aux confesseurs, il leur a dit, vous ne seriez pas confesseurs si vous n'eussiez été pécheurs. Et Saint François de Sales, docteur de l'Église. Saint François de Sales demande aux confesseurs, vous devez accueillir les pénitents avec un amour paternel, un grand amour paternel. Vous devez les accueillir patiemment tant qu'il y a en eux une espérance, dit François de Sales, une espérance d'amendement, c'est-à-dire de conversion, on dirait dans un langage plus contemporain. Un amour paternel. Et le curé d'Ars va dans ce sens, bien sûr. Le curé d'Ars, qui ne cesse d'être un pédagogue de cette miséricorde. Alors je prends juste un tout petit exemple. Non, ce n'est pas la grandeur de nos péchés ni leur nombre qui doivent nous effrayer, mais seulement les dispositions que nous devons avoir. En effet, qu'est-ce que nos péchés si nous les comparons à la miséricorde de Dieu? On peut être accablé par ces péchés. Bien sûr, les péchés peuvent être grands. Je ne veux pas dire le contraire, parce que parfois, je suis le confident ministériel de péchés très grands. Mais, dit le Saint Curé, ça devient une graine de navette devant une montagne. Oh mon Dieu, comment peut-on consentir à être damné puisqu'il en coûte si peu pour se sauver et que Jésus-Christ désire tant notre salut? La clé du curé d'Ars, c'est que il n'ignore surtout pas le péché. Il a même un art pour le nommer. Oh, quelle force il a pour nommer ce qui doit être nommé. Il a même le courage et la vertu de nommer. Il sait dire ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Mais il dit qu'il est témoin du salut et que le salut porte. La montagne de la miséricorde porte tout. Les grands témoins de la miséricorde vous disent que il y a notre misère, mais il y a la miséricorde. Sainte Catherine de Sienne dit, à l'abîme de notre misère répond l'abîme de la miséricorde. Notre misère peut être un abîme, et l'abîme de la miséricorde. Et François de Sales dit, le trône que prend la miséricorde, c'est notre misère. La miséricorde veut être comme un trône, voyez. Elle veut prendre nos misères, les élever, les purifier. Voilà. Toi, mon péché, tu le connais. Toi, mon péché, tu le connais. Alors, il y a ce premier charisme-là, le cœur écoutant. Le cœur de miséricorde, apôtre de la miséricorde. Il y a aussi dans la vie du Saint-Curé, si on en avait le temps, on pourrait étudier les éléments de sa biographie qui sont exemplaires aussi, exemplaires, pour montrer comment son humanité est venue rejoindre aussi l'expérience de la solitude. Oh, pas toujours la solitude vécue au sens de ne pas être avec d'autres, mais la solitude dans son cœur ou dans sa conscience ou dans son angoisse. Je prends juste un petit extrait qui a été écrit par un ancien recteur d'Ars. Voilà, les blessures de la famille Vianney. Par exemple, ça n'a pas toujours été facile entre Jean-Marie Vianney et son papa. La colère de ce dernier qui atteignit son paroxysme lorsque Jean-Marie refusa l'amnistie accordée aux déserteurs. par le décret impérial de 1810, qui les invitait à se mettre à la disposition des autorités départementales. Dans sa conscience, Jean-Marie ne le voulait pas. Ce refus n'alla pas sans une lourde compensation. François Vianney, le frère cadet, avait dû partir à sa place. On sait que François ne reparut jamais à Dardilly. Les siens le pleurèrent comme un mort. En 1813, alors qu'il se trouvait au petit séminaire de Verrières, dans la Loire, Jean-Marie adressa à son père une demande de pardon. On ne sait si cette lettre apaisa l'irascible père. On ne sait qui refusa de payer les frais de séjour de Jean-Marie au séminaire Saint-Irénée. À l'automne 1813, Jean-Marie parle à un de ses confrères de séminaire d'un temps de tristesse et de bannissement. Voilà un exemple de moments où je me dis, mais le cher Jean-Marie Vianney, il a dû connaître en lui quelque chose d'intense, d'une solitude intérieure. Mettons-nous quelques instants à la place du frère qui aimait son frère, qui aurait tant voulu aussi que son père le comprenne et qui devait tant à sa propre mère. Elle a quelque chose à entendre aussi d'une solitude humaine, de tenir dans sa conscience des choses et de se dire, mais bon, quelles sont les portées, les conséquences? Vous avez vécu des déchirements, vous aussi. Moi, j'ai connu, par exemple, le retour vers le Seigneur de ma jeune sœur. Plusieurs fois, je n'ai pu m'empêcher de dire au Seigneur, mais que se passe-t-il, Seigneur? Pourquoi ma jeune sœur, mère de plusieurs enfants, doit déjà être accompagnée vers toi? Vous voyez, vous avez, vous aussi, vos expériences. On pourrait tous être touchés quelque part, comme le saint curé a été touché. S'il est si apôtre de tout ça, c'est parce qu'il s'est laissé toucher. Nous ne sommes pas de marbre. La sacramentalité du saint curé passe aussi par cette humanité qui s'est touchée par l'expérience. On pourrait prendre un autre exemple. Vous connaissez son chemin vocationnel, empreint de nombreuses embûches. Je prends juste un petit exemple, le beau témoignage de Mgr Claude Simon, évêque de Grenoble de l'époque, qui se réjouit de l'ordonner prêtre. Et il y a un vicaire général un peu tout de même organisé du côté de la rentabilité, dira-t-on, pour rester charitable, et qui dit, Seigneur, vous allez vous donner tant de peine pour n'ordonner qu'un prêtre. Ce n'est pas trop de peine pour ordonner un bon prêtre. Réponse de Mgr Claude Simon. La solitude dans l'ordination, c'était un événement à l'époque. Vous savez, aujourd'hui, bien sûr, on a la raréfaction des vocations qui fait que on ordonne parfois seul un prêtre ou un diacre. Mais les cohortes de séminaristes qui étaient ordonnés, être seul ordonné et découvrir, grâce au soutien de tel et tel, toute cette abnégation intérieure, cette foi intérieure, cette espérance, jusqu'à la venue ici à Ars, pour recevoir toute la grâce du ministère paroissial dans « Mon Dieu, que c'est petit, oh que c'est petit !» Oui, c'est petit. C'est petit, mais c'est grand. C'est très grand. Solitude du Saint-Curé aussi, si nous avions le temps, nous irions explorer tous ces combats intérieurs, les combats intérieurs du Saint-Curé. Et là, surtout, chers amis, ne nous méprenons pas quand nous venons à Ars. Nous ne venons pas à Ars parce que le Saint-Curé aurait eu par lui-même des pouvoirs invincibles. Nous venons à Ars parce qu'il a accueilli en lui celui qui est plus fort. Il a accueilli en lui, il a fait de son cœur et de sa vie l'habitacle de celui qui est plus fort que tout. C'est là qu'est la clé du curé d'Ars, c'est de comprendre que le curé d'Ars livre des combats intérieurement, mais jamais par la présomption de lui-même. Il fait de son cœur l'ouverture même à ce Dieu qui vient comment lui livrer le combat au service des âmes. Parce que le curé d'Ars, comme disent très bien tous les auteurs dont j'ai là les livres et qui parlent merveilleusement du Saint-Curé, le curé d'Ars a compris que c'est le salut des âmes qui est l'enjeu. Si c'est le salut des âmes, alors son combat intérieur est un combat qui va jusqu'à être total, même s'il a des côtés parfois pour lui déconcertants, oui, certains jours, certainement. L'homme, Jean-Marie Vianney, a dû certains jours être déconcerté. Mais le prêtre, Jean-Marie Vianney, savait en qui il avait mis son amour. C'est quand je suis en faiblesse que je suis fort, dit saint Paul. Et c'est là la clé d'Ars, c'est de comprendre qu'il livre un combat pour nous. Il le livre pour nous. Il fait oblation de sa vie sacerdotale pour qu'aujourd'hui encore, en 2025, nos cœurs puissent s'épancher à cette miséricorde qui... dont il n'est pas lui, il n'est surtout pas lui le créateur, mais il est le serviteur, le ministre sacramentel. Et il est saint ministre de cette miséricorde. Alors oui, le combat du Saint-Curé, avec ce détachement dont il avait le secret. On raconte qu'un jour, il livre, parce que le curé d'Ars ne livrait pas facilement la confidence de lui-même, hein. Mais on raconte qu'un jour, il y a la petite saisie quand même d'une bribe. Le lendemain où il y avait eu quelques attaques fortes du malin, et cette façon qu'il a de dire « Ah, si cette nuit le combat était fort, c'est que demain la pêche sera bonne. » C'est extraordinaire. C'est quand même une façon de vouer la présence au combat pour que demain les gens soient accueillis par la miséricorde. Ça, c'est, voyez, c'est un sens pastoral, poussé au plus fort. Et moi, quand je dis au curé, au prêtre, inspirez-vous de ce sens pastoral. C'est là qu'il est le sens de l'oblation du prêtre. C'est pas de faire des prouesses, c'est pas de faire des héroïsmes, mais c'est de comprendre ça. Alors, le Saint-Curé, il est aussi témoin de l'altérité, on appelle ça l'altérité, c'est l'autre, les autres. Parce qu'il est curé d'Ars, bien sûr, oui, mais regardez le nombre de fois où il ne veut pas faire les choses sans quelqu'un d'autre. Regardez si un jour vous voulez étudier son lien à Catherine Lassagne. Que de choses ils ont pu faire ensemble. On pourrait faire une vraie étude de ça. Les choses entreprises, communément, l'attention portée réciproque, l'autre, l'importance de l'autre. Regardez par exemple aussi Monsieur Dégaré, qui, bien sûr, il a été maire d'Ars plus de 40 ans, oui, mais ce qu'on retient de Monsieur Dégaré, c'est qu'il a été l'ami du curé d'Ars. Et il y a même un livre qui dit Monsieur Dégaré était le ministre temporel du saint. C'est très beau ça. Vous imaginez qu'aujourd'hui on dise ça d'un maire d'une commune, hein? Ministre temporel du saint, l'ami du saint. Ouais, plus de 40 ans. On pourrait citer tant et tant de gens plus inconnus, plus invisibles. Les noms sont là dans les archives. Et puis tous les inconnus, hein, tous les invisibles, comme dit Edith Stein, sans lesquels le curé d'Ars ne voulait pas être. Parce que le curé d'Ars, il faut briser cette idée qu'il n'aurait pas été social, sociable, oh là là, non. Il faut entendre le Mgr Bagnard parler de son lien aux confrères. Le lien aux confrères. Je cite Mgr Bagnard. À la page 127 de son livre, l'attitude de Jean-Marie Vianney est bien la preuve que s'il n'a pas vécu dans un cadre communautaire, il en a partagé profondément l'esprit. Mgr Bagnard. La charité fraternelle était une donnée permanente de sa vie. Elle prenait le plus souvent la forme de la patience, de la douceur. Il n'est pas étonnant de lui entendre signaler l'isolement des curés. Le Saint-Curé parlait de l'isolement des curés comme un redoutable piège et une source de tentation. Vous voyez, le curé d'Ars a dit ça. L'isolement des curés est une source de tentation. Oh, comme on devrait l'écouter aujourd'hui. Son ministère, dit Mgr Bagnard, de confesseur, lui avait sans doute... a pris les causes de beaucoup de faiblesses chez ses confrères. C'est pour cette raison que Jean-Paul II, en s'appuyant sur l'exemple de Jean-Marie Vianney, n'a pas hésité à souhaiter aux prêtres présents à Ars en 86 une vraie fraternité doit vous unir. Donc il y a ce sens de l'autre, ce sens de la fraternité. Ça ne veut pas dire du tout, et ça n'est pas contradictoire, qu'il y avait chez le Saint-Curé une aspiration à la solitude. Et ce n'est pas du tout contradictoire, le désir de solitude. On a là dans les pensées du Saint-Curé tant et tant de pensées. C'est dans la solitude que Dieu parle. La solitude faisait ses délices. Jamais on n'est fâché de ne rien avoir dit, on est presque toujours fâché lorsqu'on se repent d'avoir trop parlé. Voilà ce que dit le Saint-Curé. Il y a longtemps que je demande à mes supérieurs la permission d'aller dans la solitude, dans quelque ordre religieux. Ah, si vous vouliez joindre vos instances aux miennes, nous pourrions peut-être réussir. Ah, on sent bien l'aspiration à la solitude. Et on pourrait multiplier les citations. Donc ne nous méprenons pas, chers amis. La solitude ici, chez le Saint-Curé, c'est une solitude habitée, vous voyez. C'est une solitude habitée. Seigneur en lui, pour mieux se donner aux autres. Et même dans les temps qu'on pourrait qualifier d'interrogation, bon, si on avait le temps, on irait analyser, bien sûr, chacun de ces moments, même quand il aspire à d'autres moments de repos, de solitude, de retrait, d'ermitage. Parce que la charge de curé, il la redoute. Il est heureux d'être prêtre. Prêtre. Mais curé, il dit, c'est redoutable. Même là, on sent bien que quel que soit le vacillement de son cœur, c'est une solitude habitée. Une solitude habitée. Donc que l'Esprit-Saint nous aide en cette journée à ne pas confondre ce que c'est de se retirer et ce que c'est de vivre une solitude au sens de l'Évangile, voyez. En solitude, au sens de l'Évangile, on est habité de Dieu. On est habité de la présence de ceux qu'on aime, bien sûr. La vraie solitude de l'Évangile ne nous met pas hors de nos devoirs d'État, bien sûr. Si vous êtes une mère de famille, vous avez votre devoir d'État. La solitude, au sens de l'Évangile, n'est pas une fuite irresponsable. Mais c'est tellement cet oxygène dont notre âme a tant besoin. Voyez. Et en ces temps de canicule, je me permets de vous inviter à convertir votre sens de la solitude. Parce que nous avons beaucoup de commentaires sur l'écologie face à la canicule. C'est normal, il le faut. Il le faut, nous devons réagir, bien sûr, sur les aspects de l'écologie. Mais le temps n'est pas seulement celui de l'écologie verte. C'est aussi le temps de l'écologie de l'âme. Plus nous suffoquons au niveau du thermomètre, plus nous devons intégrer le risque de suffoquer au niveau de notre vie charitable, fraternelle, spirituelle. Par exemple, vous savez bien que quand le thermomètre monte, notre irritabilité monte. C'est pas besoin d'être de Saint-Cyr pour le démontrer. Qu'est-ce que je fais pour rester frère des hommes quand le thermomètre monte? Quand le thermomètre monte, qu'est-ce que je fais pour aspirer encore à ce que Dieu me ressource et pour que j'aille aux sources de la bonne eau dont mon arbre a besoin, comme dit le psaume numéro 1, pour ressourcer toute ma vie, pour l'abreuver. Oui. Et les racines de l'arbre ont tant besoin de se ressourcer. Alors, nos quelques heures de cette journée peuvent peut-être nous aider à cela. Ce qui me semble aussi très fort, très moderne, très contemporain chez le curé d'Ars, c'est que justement parce qu'il a ce respect de Dieu dans la personne, jamais le curé d'Ars ne possède quelqu'un. On est dans une période où on doit réfléchir beaucoup au risque de l'emprise, vous voyez, de respect de l'autre. Le curé d'Ars est un modèle de présence à l'âme de l'autre. Mais Dieu sait si son discernement peut être très influent au sens de l'Évangile, mais jamais il ne possède l'autre. Il y a une éthique chez lui, on dirait aujourd'hui dans un langage moderne, une déontologie, mais ce n'est pas une déontologie horizontale, c'est parce que ça vient de Dieu. Dieu est tellement dans l'autre, je vois Dieu là, Dieu est présent dans l'autre. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. C'est ce que les confesseurs sont invités à dire à quelqu'un qui vient au confessionnal. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. C'est une superbe formule. Elle est dans le rituel de la confession. Je ne comprends pas pourquoi les confesseurs ne l'emploient pas. Elle est sous un doigt de poussière. Alors qu'elle est là. L'Esprit Saint vous a conduit jusqu'ici. C'est ça le curé d'Ars. L'Esprit Saint vous a conduit. Et donc, parce qu'il vous a conduit, le curé d'Ars respecte l'intérieur de l'autre. Il y a aussi un autre endroit qui est très beau, c'est... On a cité tout à l'heure le petit Antoine. On pourrait citer évidemment le paysan qui est là en train de se laisser aviser. Il avise le Seigneur, il se laissera aviser. Ça aussi, c'est une pédagogie de la prière, vous voyez, de la part du curé d'Ars. Le petit Antoine, lui, pour moi, il est une icône. Antoine Givre est une icône. Il est comme l'icône de toutes les âmes, vous voyez, qui vont venir par nombre, par multitude, ici à Ars, dont vous êtes aujourd'hui. Dans la bibliothèque très riche du curé d'Ars, sa bibliothèque était très riche, on pourrait trouver de quoi méditer aussi sur Job et sa solitude, David et sa solitude. On pourrait méditer sur Salomon, sur Néhémie et leur solitude. Vous voyez, tout ça est dans sa bibliothèque. Sur Jérémie, le prophète, et leur solitude. Dans les sources bibliques, il y a beaucoup de solitude. Que le Saint-Curé, par les pères de l'Église aussi, a beaucoup regardé. On pourrait regarder Augustin, si on avait le temps de regarder tout ce que dit Augustin sur le cœur humain. Tout ce que dit Augustin sur le cœur. La présence d'Augustin, de Jean Chrysostome, dans les inspirations du curé d'Ars. Et puis, une sainte qui précède le curé d'Ars, elle le précède dans la chronologie, puisqu'elle est dans les années 1610, c'est Jeanne de Chantal. Elle peut aussi être forte pour vous aujourd'hui. Jeanne de Chantal qui incarne les états de vie successifs. Elle peut aussi beaucoup aider les gens qui vivent aujourd'hui des grands passages, des discernements cruciaux. Je me permets de rappeler que Jeanne a été une épouse, une mère, puis une veuve, de façon tout à fait inattendue, brutale. Et puis de ce veuvage avec la direction spirituelle de François, voilà qu'elle fonde la visitation, elle devient religieuse, vous voyez. Et là, Jeanne incarne aussi cette paternité, ce vocable d'état de vie successif, mais toujours vécu en abandon, en capacité de les discerner. Le curé d'Ars est pétri de tout ça. Le secret ici que nous découvrons en venant ou en revenant, parce que parmi vous, il y a des gens qui viennent, d'autres qui connaissent depuis très longtemps, c'est d'entendre que quelqu'un ne cesse de convertir le Saint-Curé. Le curé d'Ars ne cesse de répondre lui-même à la conversion que le Seigneur lui demande. Il faut toujours aller plus loin, toujours plus loin. Et je dirais qu'il y a quelques pièges, si je pouvais encore, me permettre de regarder la montre pour respecter, parce qu'après on va peut-être ménager une transition pour la messe, hein, c'est bien ça ma soeur, hein. Ça va ? On est dans les temps. Je me permets alors de, pour respecter cette messe, hein, qui, cette belle messe avec laquelle nous allons rejoindre, je me permets de signaler, de donner peut-être deux grands pièges dont le curé d'Ars nous garantit. Il a cette façon de nous dire, attention, la sainteté, ne crois pas que la sainteté ce soit l'affaire de spécialistes. Ça c'est la première chose que le saint curé nous garantit. Dans une de ses homélies, il dit « Les mondains, pour se dispenser de travailler à acquérir la sainteté, ce qui sans doute les gênerait trop dans leur manière de vivre, veulent vous faire croire que pour être des saints, il faut faire des actes éclatants. S'appliquer à des pratiques de dévotion extraordinaires, embrasser des grandes austérités, faire beaucoup de jeûnes, quitter le monde pour s'enfoncer dans les déserts, afin d'y passer des jours et des nuits. Sans doute que cela est très bon, dit le Saint-Curé. C'est bien la route que beaucoup de saints ont suivie. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande de tous. Non, ce n'est pas ce qu'exige de nous notre sainte religion. Au contraire, elle nous dit, levez les yeux au ciel, voyez, si tous ceux qui en remplissent les premières places ont fait des choses merveilleuses. Où sont les miracles de Saint Jean-Baptiste, de Saint Joseph? Écoutez, Jésus-Christ lui-même dit que plusieurs, au jour du jugement, s'écrieront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en votre nom? N'avons-nous pas chassé les démons? Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité, leur répondra le juste juge. Quoi, vous avez commandé à la mer? Vous n'avez pas su commander à vos passions. Le saint curé qui nous dit, attention, hein, n'allons pas pousser loin, ne mettons pas à distance de nous l'appel à la sainteté, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Que le chemin d'une sainteté soit belle, bien sûr, si c'est ton chemin, et il l'approuve évidemment, mais il insiste pour dire, ce qui est très important, c'est que notre propre route de sainteté soit découverte. Et c'est là aussi la grâce que je vous souhaite en cette journée. Et puis, ce qui me semble important aussi, c'est de comprendre que grâce au Saint Curé d'Ars, nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous avons besoin les uns des autres. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Ce curé d'Ars qui vient nous rappeler l'amour du corps eucharistique, corps mystique, corps ecclésial, il vient nous rappeler à quel point nous sommes comme greffés les uns sur les autres par la grâce christique. Ici, le rendez-vous est christique. C'est le Seigneur, c'est le Christ. Oui. Nous ne sommes rien les uns sans les autres. Nous avons un ami ici. Nous avons un ami qui est indéfectible, qui nous attend. Et Bernanos disait, en parlant du diable, Bernanos disait, le diable, c'est un ami qui ne reste pas jusqu'au bout. Le diable, c'est un ami qui ne reste pas jusqu'au bout. Il joue aux faux amis, mais il ne reste pas jusqu'au bout. Alors que le Saint Curé d'Ars incarne la vénération, l'adoration de l'ami véritable, celui dont on doit adorer toute la présence. Et tout à l'heure, nous aurons aussi ce moment tellement fort de pouvoir l'adorer dans le précieux sacrement. Je vais peut-être me permettre d'en rester là. Ça va, ma soeur? J'essaie d'obéir à... Parce qu'évidemment, on peut parler des heures entières. Ça va? Vous êtes encore là? Oui? Bon. D'accord. Voilà. Dites-moi. C'est l'heure de la messe, hein? Ça va? Bon, eh ben, écoutez, on fait un petit...
Il y a un sac qui a été oublié là-bas. Ah ben voilà, on est là.
Voilà. Merci déjà de votre attention, et puis à tout à l'heure, hein, pour se retrouver... Avec grand besoin, hein, de vous rencontrer.
Et après la messe, on se retrouve ici pour le temps d'apéritif et de déjeuner.
Voilà. Bonne journée à tous, hein. La joie de se rencontrer.